Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14 au sommaire aujourd'hui. Et maintenant, quelle nouvelle pierre pour la maison commune de la gauche? Les Verts et les Insoumis ont validé un accord la nuit dernière pour les législatives. Nous verrons comment il est accueilli à Lyon, ville dirigée par les écologistes. Les socialistes et les communistes vont-ils suivre, au cœur des tractations, le nombre de circonscriptions réservées à chaque parti? Explication de Julie Drouin. Des discussions suivies attentivement à l'Elysée, où Emmanuel Macron temporise avant de nommer son équipe. On verra pourquoi avec Simon Le Baron. À la une également, ces policiers qui manifestent ce midi dans plusieurs villes du pays contre la mise en examen d'un des leurs pour homicide volontaire. Adolf Hitler avait du sang juif, les propos polémiques du ministre russe Sergueï Lavrov pour justifier ce que Vladimir Poutine appelle la dénazification de l'Ukraine, indignation en Israël. Les deux plus grandes villes néo-zélandaises menacées par la montée des eaux, les parlementaires suisses formés aux questions du réchauffement climatique et la disparition d'un homme de théâtre également chef d'entreprise, parcours rare, celui du dramaturge Michel Vinavert. Il est décédé hier. Nous retracerons sa carrière avec Stéphane Capron. Les invités de ce 13-14, comment expliquer les pénuries de produits dans nos supermarchés? Au-delà de la raréfaction de l'offre liée à la guerre, le phénomène des achats paniques est observé par les spécialistes. Séverine Enjolras, anthropologue, spécialiste des questions de consommation, sera avec nous dans un quart d'heure. Et puis à 13h30, pourquoi l'hôtellerie-restauration éprouve-t-elle autant de difficultés à recruter? Jean Terlon, vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, sera là pour vous répondre. J'attends vos questions au 01 45 24 7000. Et puis de la musique dans ce 13-14, le feuilleton de la semaine au Conservatoire de Marseille avec son directeur jazzman. Et puis les mots de Serge Reggiani dans C'est une chanson, Reggiani l'italien, né il y a 100 ans, très exactement aujourd'hui. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
La gauche s'affichera-t-elle unie demain 3 mai, 86 ans jour pour jour après l'élection du Front Populaire, la victoire de la gauche unie aux législatives de mai 1936. C'est possible puisque la nuit dernière, dans la foulée du 1er mai, autre date symbolique, insoumis et écologistes sont tombés d'accord. Dans le détail, les écologistes présenteront des candidats dans 100 circonscriptions en échange de plusieurs compromis, notamment sur l'Europe. Ils acceptent désormais le principe de désobéissance à certaines règles de l'Union. Socialistes et communistes accepteront-ils aussi des compromis pour sauver leurs députés à l'Assemblée? On va y venir dans un instant. D'abord, regardons comment cet accord est accueilli chez les Verts. Les adhérents doivent encore le valider, mais ça ne devrait pas poser de problème. Reportage à Lyon, ville dirigée par les écologistes. Christophe Vincent.
Ils ont appris la nouvelle au réveil sur les réseaux sociaux et beaucoup se sont levés du bon pied, comme Sophie Pécourt, militante et conseillère d'arrondissement du 7e.
C'est un soulagement, c'est une joie. On a un ancrage local maintenant. On a la mairie de Lyon, on a la métropole de Lyon. On est d'ailleurs déjà en union avec la France Insoumise, avec le PS, avec le Parti communiste. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Cet accord, il nous donne l'occasion de faire entrer l'écologie de façon beaucoup plus large à l'Assemblée nationale. C'est une vraie chance pour l'écologie politique et c'est une vraie chance pour la gauche.
Même enthousiasme pour Elias, fraîchement encarté à Europe Écologie Les Verts et prêt à faire campagne sur le terrain social, SMIC à 1400 euros, retraite à 60 ans.
Très heureux que ça arrive enfin. C'est une bonne nouvelle. Comme on a fait pour les présidentielles, certes, chacun de notre côté, là, on va le faire tous ensemble, unis, en reprise du tractage, qui est une chose très importante, évidemment, pour convaincre les habitants que la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour être Premier ministre est une bonne chose et que l'union de la gauche et des écologistes est une bonne chose.
Et il ajoute, je ne croyais pas une majorité possible, maintenant on envisage la victoire. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Alors qui sera le prochain à toper avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise? Bonjour Julie Drouin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Les négociations reprennent aujourd'hui avec les socialistes et les communistes, c'était ce matin pour le PS.
Et rien n'est encore gagné, ça négocie dur, nous dit-on en interne. Sur les circonscriptions, toujours, les socialistes en réclament une centaine, c'est ce qu'ont obtenu les Verts. LFI n'en proposerait qu'une cinquantaine ou un peu plus soit la limite pour obtenir un financement des partis. Et puis toujours la question de l'Europe. Hier, Europe Écologie Les Verts a accepté la possibilité possibilité de désobéir à certaines règles européennes, mais seulement sur les cas budgétaires et économiques. Pour les socialistes, c'est un point de renoncement important. Hier, l'ancien patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a fustigé dans une lettre ouverte les velléités de LFI de sortir des traités européens, tout comme un retour à la retraite à 60 ans. Autant de réformes passées durant l'ère socialiste en France. Et puis, entre la France insoumise et le PS, il y a un passé compliqué. Alors, à la table des négociations, ça traîne, au point que la réunion tripartite prévue en fin de matinée avec les Verts, le PS et LFI a dû être décalée.
Et cet après-midi, place aux communistes, là pour parler surtout des circonscriptions.
Pour Fabien Roussel, le secrétaire général du PCF, l'enjeu de la discussion est d'obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Il faut donc 15 députés élus. Mais pour le moment, les insoumis n'offrent que 50 circonscriptions, dont seulement 11 considérées comme gagnables. Pour autant, Fabien Roussel espère parvenir à un accord. Au plus tard cette nuit, c'est aussi l'objectif des négociateurs. Déjà, les communistes sont satisfaits de la bannière commune annoncée hier, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sur le programme, globalement, ça fonctionne, mais les communistes cherchent à pousser le plus loin possible sur les services publics, par exemple la santé, l'éducation, avec l'objectif d'avoir un programme partagé le plus ambitieux possible. La question du nucléaire qui divise les deux parties a été évacuée de l'accord. Fabien Roussel renonce à un référendum sur le sujet afin de parvenir à cette historique union de la gauche.
Information signée Julie Drouin. Pourquoi les négociations entre insoumis et socialistes piétinent encore? C'est à lire sur franceinter.fr. Objectif annoncé par cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est son nom de baptême. Objectif donc, décrocher la majorité à l'Assemblée nationale lors des prochaines législatives, autrement dit, priver Emmanuel Macron de majorité dans la foulée de sa réélection, ce qui serait une première pour un président sous la Ve République. Même si elle parvient à s'unir, la partie n'est pas gagnée pour la gauche, estime le politologue d'Ipsos Mathieu Gallard.
Incontestablement, c'est une annonce qui rend ces élections législatives plus incertaines pour La République En Marche et pour sa capacité à obtenir une majorité absolue lors de ces élections législatives. Ce qu'il va falloir savoir désormais, c'est si effectivement l'ensemble de l'électorat de gauche se retrouve derrière les candidats uniques de la gauche aux élections législatives, et puis comment vont réagir les électeurs des autres formations politiques, et notamment, est-ce que ça va pas un petit peu poussé dans les bras de La République En Marche, une partie de l'électorat, voire même des députés sortants des Républicains, pour essayer de faire face à cette dynamique en faveur de la gauche. Sachant que pour l'instant, ce bloc de droite n'a aucune réalité du point de vue politique. Les Républicains ont été très clairs, mais ce qu'il va falloir regarder de près, c'est l'attitude des électeurs des Républicains. Parce que ce sont probablement eux qui vont détenir les clés de ces élections législatives.
Le politologue Mathieu Gallard, joint par Élodie Forêt. Lui ne participera pas à la bataille des législatives. Jean Lassalle, ex-candidat à la présidentielle, annonce ce matin qu'il ne se représentera pas dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour des raisons de santé, dit-il. Il doit subir une opération du cœur. La gauche est donc en mouvement et cela contraste avec l'immobilisme des autres forces politiques. Marine Le Pen a pris quelques jours de vacances. Hier, elle a séché pour la première fois le traditionnel hommage du Rassemblement National à Jeanne d'Arc. Emmanuel Macron, de son côté, se laisse du temps, plus d'une semaine. Après sa réélection, toujours pas de Premier ministre nommé et un agenda particulièrement léger cette semaine, ce qui intrigue. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le chef de l'État subit-il les événements ou a-t-il tout simplement décidé de voir venir?
Alors évidemment, Jérôme, ses plus proches vous diront qu'il maîtrise totalement la situation, qu'il a tout intérêt à prendre son temps pour mener une campagne des législatives courte, compact sur le modèle de la présidentielle. Sa cérémonie d'investiture devrait avoir lieu samedi matin à l'Élysée. La semaine prochaine sera consacrée à la nomination du Premier ministre, puis à la formation du gouvernement, ce qui ferait donc un petit mois de campagne, voire trois semaines, si l'on compte celle de l'ascension comme une semaine blanche sur le plan politique. Emmanuel Macron a toutes les cartes en main, donc. Ça, c'est pour la version officielle. La vérité, c'est que ces troupes n'en peuvent plus, comme nous le raconte un parlementaire. Les députés sortants sont ultra stressés au bord de la crise de nerfs. La garde rapprochée macroniste a beau jurer que l'accord à gauche ne leur fait pas peur. Le président de la République, visiblement, n'a pas l'intention de se laisser prendre de vitesse. Selon nos informations, il consacre toute sa journée aujourd'hui et celle de demain à valider les investitures de la majorité, circonscription par circonscription. Ses hommes de confiance, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée en tête, les lui font monter une à une sur son bureau de l'Élysée. On pourrait dire que plus l'agenda officiel d'Emmanuel Macron est vide, plus il est occupé.
Explication de Simon Le Baron. Le 24 avril dernier, le soir du second tour de la présidentielle, alors qu'Emmanuel Macron fêtait sa réélection sur le Champ de Mars à Paris, des policiers intervenaient pour un contrôle sur le Pont Neuf, toujours à Paris, contrôle sur une voiture. Mais le conducteur et son passager tentent alors de prendre la fuite. L'un des policiers ouvre le feu, tuant les deux occupants du véhicule. Et ce gardien de la paix a depuis été mis en examen pour homicide volontaire. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
En soutien à leurs collègues mis en cause, des policiers se sont rassemblés un peu partout en France ce midi. C'est le cas à Paris, place Saint-Michel, où vous vous trouvez?
Oui, la légitime défense sur le banc des accusés, dit la principale affiche de cette manifestation. Ils sont plusieurs centaines de policiers et policières rassemblés à quelques dizaines de mètres du Pont Neuf ici à Paris. Rassemblés, disent-ils, pour soutenir Quentin, leur collègue, aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire. Vous l'avez dit, comment peut-il être traité comme un meurtrier, même présumé, disent tous les policiers avec qui nous avons pu discuter depuis ce midi. Pierre, qui a 34 ans, se disait écœuré. Il n'avait jamais vu un tel cas de figure depuis qu'il a démarré dans la police. La qualification d'homicide volontaire, quand on a voulu se défendre et défendre ses collègues, c'est impossible. Le secrétaire national d'Alliance, Fabien Vandel-Melric, co-organisateur de cette manifestation, a redit il y a quelques minutes que le problème de la police, c'est la justice. Mais cette fois, il a évoqué une frange de la justice, ciblant sans aucun doute possible les magistrats du syndicat de la magistrature catalogués à gauche, qui, selon le syndicat Alliance, instruisent régulièrement à charge contre les policiers et beaucoup moins contre les voyous, alors qu'il faut de la complémentarité. Des syndicalistes surtout choqués de voir que leur collègue du Pont Neuf ne pourra plus exercer durant toutes les années que va durer l'instruction, l'enquête ici à Paris.
Emmanuel Leclerc en direct de ce rassemblement policier à Paris avec les moyens techniques de Romain Luquiens. Les pompiers, eux, ne digèrent pas l'agression d'un des leurs hier lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Ce pompier tentait d'éteindre un feu de palette allumé en marge du cortège quand il a été frappé par une femme. Les pompiers ont la crainte de ne plus intervenir dans de bonnes conditions, a dit ce matin sur France Info leur porte-parole, le commandant Éric Brocardi. Cette femme a été interpellée hier. Au total, 47 personnes interpellées hier ont été placées en garde à vue, selon le parquet de Paris. Un nouveau patron pour le groupe Orpea, Laurent Guillot, ex-numéro 2 de Saint-Gobain, prendra ses fonctions le 1er juillet dans ce groupe d'EHPAD, accusé d'avoir sacrifié les conditions de vie de ses résidents pour réaliser davantage de bénéfices. Depuis les révélations du livre Les Fossoyeurs, plusieurs personnes ont déjà quitté l'entreprise, ajoute Orpea, qui indique deux nouveaux départs sont possibles selon le résultat des investigations menées en interne.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine. On se souvient de cette phrase prononcée par Vladimir Poutine le 24 février dernier. C'était dans son discours précédent de quelques heures l'invasion de l'Ukraine. Ce à quoi le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait répliqué « Comment pourrais-je être un nazi ? Expliquez-le à mon grand-père qui a traversé toute la guerre dans l'infanterie de l'armée soviétique. » Ce que n'ajoutait pas Zelensky, c'est qu'il vient d'une famille juive et que trois frères de son grand-père ont été tués pendant l'Holocauste. Peu importe, on peut être nazi et avoir du sang juif. Voilà ce qu'affirme dans une interview le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Jérôme.
Lavrov prend même l'exemple d'Adolf Hitler et ses propos suscitent la colère en Israël.
Oui, c'est au détour d'un très long entretien hier, 40 minutes, avec la chaîne italienne Rete 4, dans l'émission Zona Bianca, que le chef de la diplomatie russe s'est laissé aller à un dérapage dont il est désormais quasi coutumier.
La nazification existe.
La nazification de l'Ukraine est un fait bien établi, insiste-t-il, prenant pour exemple les combattants du bataillon Azov coincés dans l'usine Azovstal de Mariupol et constitués, selon Sergueï Lavrov, de militants nazis qui, je le cite toujours, ouvertement lisent et soutiennent Mein Kampf. Et, ajoute-t-il, quand on dit qu'il ne peut pas y avoir de nazification en Ukraine parce qu'on est juif, référence au président Zelensky, ça ne veut rien dire. Je crois savoir que même Hitler avait des origines juives. Évidemment, la réaction la plus forte est venue d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères convoquant l'ambassadeur russe pour obtenir des clarifications. La thématique nazie n'est pas nouvelle dans la propagande russe concernant l'Ukraine, mais jusqu'au début de la guerre, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie, n'était pas particulièrement monté au créneau sur ce thème. Il s'est rattrapé depuis, multipliant les sorties outrancières et perdant de ce fait le peu de crédibilité qu'il avait encore.
Éric Biegala. Sur le terrain en Ukraine, les autorités tentent toujours d'évacuer des civils de la ville assiégée de Mariupol. Une centaine des femmes et des enfants ont quitté l'usine Azovstal. Hier, c'est le dernier bastion à résister encore dans cette ville. De nouvelles évacuations sont prévues aujourd'hui. Opération coordonnée par le Comité international de la Croix-Rouge. À Bruxelles, les ministres de l'énergie des 27 pays de l'Union européenne, eux, sont réunis pour trouver une position commune sur la question du gaz. La Russie demande à être payée en roubles et sur l'arrêt des importations de pétrole. Cette guerre entraîne depuis des semaines des tensions sur le marché des céréales. Nos navires ne sortent pas de la mer Noire, redit Volodymyr Zelensky dans un entretien à un média australien, ce qui fait craindre des famines en Afrique notamment. Chez nous, les conséquences sont moins lourdes mais bien visibles dans nos supermarchés, avec des rayons en partie vides, pâtes, farine, huile de tournesol, même si la guerre n'explique pas tout, car le comportement des consommateurs inquiets, voire paniqués, est aussi à l'origine de ces pénuries. Comportement que vous étudiez, Séverine Enjolras, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes anthropologue, enseignante en Master 2 à Paris-Sorbonne. Ce phénomène a un nom, on l'appelle l'achat panique, c'est ça ? Panic buying en anglais.
Oui, tout à fait, oui. Oui, achat panique. Même si on n'observe pas forcément des comportements de panique, je dirais, à l'échelle microsociale quand on observe dans les magasins.
C'est le même phénomène qui était à l'œuvre au moment du confinement, avec notamment ces consommateurs qui venaient acheter en nombre du papier toilette, par exemple.
Oui, on peut le comparer, sauf qu'il y a peut-être, là je trouve, un petit peu moins de panique. On peut voir quand même qu'il y a de l'anticipation avec de la rationalisation des achats, aussi par peur de la hausse des prix. Mais c'est quand même pas au même niveau que ce qu'on avait pu observer pendant la pandémie autour du papier toilette ou autour des produits tels le Nutella.
Alors, il y a des raisons rationnelles et puis il y a de l'irrationnel. Pourtant, aucun Français n'a connu la famine, contrairement à ce qui se passe dans des populations d'Europe de l'Est, par exemple.
Oui, tout à fait. Bon, après, c'est évident que la peur du manque, hein, ça crée un réflexe très basique et archaïque. Après, là, ce qu'on observe aussi quand même, c'est que tous ces produits, ils représentent aussi des valeurs refuges, hein, c'est-à-dire un peu des valeurs doudou. Les gens, ils sont assez attachés. Donc, il y a vraiment un effet comme ça. Les avoir chez soi, les stocker, ça rassure, même si le contexte de guerre est assez éloigné. C'est évident aussi que ça parle de notre société de consommation, hein. On est assez fébrile sur le sujet de l'approvisionnement. Je pense qu'on est assez incapable d'envisager un peu de tension sur les approvisionnements, parce qu'on est très dépendant aussi psychologiquement des produits tout faits.
C'est-à-dire que si on vient à manquer ou à devoir se passer pendant quelques semaines d'un produit, c'est pour beaucoup de consommateurs inenvisageable ?
Oui, c'est inenvisageable, ça fait peur, il y a une peur de vide. Et puis c'est évident que ce qu'on est en train de faire là aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que à force d'en parler, les gens finissent par se dire ça serait quand même peut-être bien que je stocke. Et du coup, ça crée des ruptures de stock. On voit aussi que les grandes surfaces, hein, avec leurs messages préventifs qui disent il faut quand même se rationner, limiter à 2 ou 3 bouteilles d'huile, du coup les foyers ont tendance à acheter d'un coup 3 bouteilles d'huile, ce qu'ils n'auraient jamais fait. Hein, donc ça crée aussi ce type de message préventif, peut créer de l'angoisse et peut créer une ruée, un surstockage, des surachats, alors qu'en fait ils n'avaient pas du tout besoin d'huile dans l'instant.
Et ça alimente le phénomène. Il y a aussi, Séverine Enjolras, des professionnels qui ont besoin de ces produits. Je pense aux restaurateurs pour l'huile de tournesol, par exemple. Il n'y a pas que des achats compulsifs ou des achats paniques.
Oui, mais c'est évident que les restaurateurs ont aussi tendance à surstocker, à vouloir anticiper. C'est évident que les grossistes, c'est pareil. Hein. Ils mettent aussi en scène dans leurs enseignes en mettant de la rubanise, hein, des rubans de chantier. On peut plus accéder directement au rayon. Donc, il faut aller s'adresser à la caissière. Donc, du coup, on négocie. Si on connaît le directeur de magasin, on va négocier pour prendre des bidons plus importants, par exemple de 5 litres, de 10 litres, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, c'est pareil. Hein. Je dirais qu'il y a vraiment un phénomène d'emballement qui est lié à la peur du manque. Alors qu'en fait, il n'y a pas encore de pénurie, il y a juste une rupture dans les chaînes d'approvisionnement parce qu'elles manquent de réactivité. Donc c'est un emballement, que ce soit chez les restaurateurs ou chez les consommateurs, qui est vraiment du même acabit et qui renvoie quand même un réflexe très, très, très archaïque.
Merci à vous, Séverine Enjolras, de nous avoir expliqué comment ces pénuries finalement arrivent et à quel point la guerre et la raréfaction de l'offre n'expliquent pas tout dans ces phénomènes qu'on observe depuis quelques semaines. Maintenant, je rappelle que vous êtes anthropologue enseignante en Master 2 à Paris-Sorbonne. On peut parfois parler les concernant d'achats compulsifs, les téléphones portables. Mais là, c'est la question de la confidentialité des conversations qui fait scandale en Espagne. Les portables du Premier ministre espagnol et de sa ministre de la Défense ont été écoutés illégalement l'an dernier via le logiciel israélien Pegasus. Le gouvernement de Madrid parle de faits d'une énorme gravité et dénonce une attaque externe. C'est l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'un des pays les plus en danger aussi. La Nouvelle-Zélande est confrontée à la montée rapide du niveau de la mer, une hausse plus rapide que prévu, Sandy Dauphin, selon une étude publiée aujourd'hui. Les deux plus grandes villes du pays, Auckland et Wellington, sont menacées.
À Wellington, la capitale, l'eau pourrait monter de 30 cm, non plus en 2060 comme c'était prévu, mais dès 2040. Même topo à Auckland, ville portuaire, où le niveau de la mer augmentera 50% plus vite dans certains quartiers, d'après cette nouvelle étude néo-zélandaise menée sur 5 ans. Les chercheurs ont cartographié très précisément le littoral à partir de mesures satellites en tenant compte à la fois de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi d'un autre phénomène, les terres qui s'enfoncent, d'où l'accélération de la montée des eaux, explique Laurent Labéry, océanographe, ancien membre du GIEC.
On s'aperçoit qu'en particulier dans la région la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, là où il y a Auckland, Wellington et tout ça, la Terre s'enfonce en gros de 4 mm par an en ce moment. 4 mm par an, alors que la mer elle-même, elle monte de 4 mm par an. C'est-à-dire que la différence, c'est presque 1 cm par an. 1 cm par an de changement au niveau de la mer, ça n'a l'air rien du tout. Mais il faut réaliser qu'en 30 ans, ça fait 30 à 40 cm.
Et cela veut dire que les autorités néo-zélandaises vont devoir s'adapter plus vite que prévu à la montée des eaux.
C'est-à-dire que les grandes marées d'équinoxe de printemps, par exemple, monteront 40 cm plus haut. Or, toute la côte est adaptée au niveau actuel. Les quais, les maisons, toutes ces choses-là, tout est inondé. Déjà, les assurances ne pourront pas suivre.
Le gouvernement néo-zélandais travaille déjà avec les autorités locales et les assureurs pour savoir qui doit payer quoi.
Sandy Dauphin, la Nouvelle-Zélande, qui s'est déjà engagée à produire 100% d'énergie renouvelable d'ici 2035. On le sait, dans ce combat contre le réchauffement, les élus ont un rôle central. Encore faut-il qu'ils aient les compétences suffisantes pour répondre à ces questions complexes qu'ont décidé de faire les Suisses. Leurs parlementaires sont formés depuis aujourd'hui par des experts du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Formation presque imposée par un citoyen suisse qui avait tenu une grève de la faim de 40 jours devant le Parlement à Genève pour France Inter, Jérémy Lanche.
Quelles conséquences du réchauffement et de la perte de la biodiversité pour la Suisse? Quelles solutions adopter rapidement pour tenter de limiter la casse? Voilà le genre de questions sur lesquelles les élus vont plancher aujourd'hui. Et l'ex-gréviste de la faim, Guillermo Fernandez, entend bien tenir la feuille d'appel.
De dire, ce gars-là considère qu'il est préférable d'aller à la pêche plutôt que de savoir comment on construit un avenir vivable pour nos enfants.
3 heures de présentation, dont 25 minutes de questions-réponses, c'est peu au regard des enjeux. Mais c'est toujours bon à prendre.
C'est une opportunité rare, je crois, pour un parlementaire de savoir de quoi on parle dans le détail par ceux qui sont en position d'y répondre parce qu'ils ont étudié le problème depuis des années.
L'impact du réchauffement est particulièrement visible en Suisse où les Alpes, qui occupent 60% du territoire, se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Préparer les élus serait donc le minimum que l'on puisse faire, estime Guillermo Fernandez, qui dit agir pour ses 3 enfants.
Si on arrive à leur laisser un héritage physique décent, c'est super. Si on n'arrive pas, au moins leur laisser un héritage moral décent. C'est-à-dire, nous avons fait tout ce qu'on a pu.
Le cas suisse pourrait en inspirer d'autres. Guillermo Fernandez a par exemple été convié au Sénat français par un élu centriste qui souhaite que tous les élus locaux reçoivent obligatoirement le rapport du GIEC. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
Une fois votées ces lois de protection de l'environnement, il faut les faire appliquer. En Ile-de-France, dans le sud de l'Essonne, une police municipale s'est équipée de quads à achat financé en commun par 16 communes. Principal objectif, lutter contre les dépôts sauvages d'ordures en pleine nature. Sophie Constanzer a suivi une patrouille.
Direction le site de la Sablière, classé espace naturel sensible par le département de l'Essonne, avec Sébastien, l'un des 8 policiers municipaux.
On a des milieux qui se ferment au fur et à mesure des années.
Et pas besoin de s'enfoncer très loin dans la forêt pour trouver l'une des plus grosses décharges sauvages du secteur. des tonnes de déchets sur près de 200 mètres.
On a de multiples dépôts. Ça passe par de l'éternite, des déchets de chantier, voire automobile même, parce qu'on a des pare-chocs, on a des moteurs, on a un peu de tout.
Ces deux quads attribués à la police municipale, c'est un investissement de 15 000 euros pour la communauté de communes entre Juine et Renarde, dont Alexandre Touzet est le vice-président.
On est 16 communes essentiellement rurales, couvertes par des champs, par la forêt, et donc on partage ces problématiques de dépôts sauvages, de circulation interdite, de déboisement sauvage.
Le coût d'un seul enlèvement de dépôts sauvages peut aller jusqu'à 1 000 euros pour une commune. Et une fois rentré au siège de la police municipale, un rapide coup d'œil aux chiffres avec le responsable Ludovic Fontaine.
On a vraiment des dépôts qui sont quand même conséquents, supérieurs à 10 mètres cubes, ça représente quand même une masse d'encombrants, quoi.
Et le phénomène a pris de l'importance avec le confinement. Le nombre de dépôts sauvages signalés et constatés par cette police municipale a doublé entre 2019 et 2020.
Reportage Sophie Constanzer. C'est un parcours atypique, comme on n'en voit quasiment jamais. Dans le monde de la culture, un homme qui mène de front deux carrières, celle d'auteur de théâtre et celle de chef d'entreprise. Cet homme, c'est Michel Vinavert, décédé hier à l'âge de 95 ans. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Jérôme.
Vinavert, le patron dramaturge, était d'abord un auteur de grand talent.
Oui, il était en quelque sorte le Shakespeare des temps modernes, car il aimait regarder le monde et décortiquer l'actualité pour façonner ses personnages. Il a eu la chance d'entrer de son vivant au répertoire de la Comédie Française. C'était en 2009 avec L'Ordinaire. Il était inspiré d'un fait divers, le crash d'un avion au-dessus des Andes en 72 pour raconter le destin du président d'une multinationale, de son épouse, de sa secrétaire et de ses quatre vice-présidents. Il avait évidemment largement puisé dans son quotidien, celui de son vrai métier, PDG de Gillette, un poste qu'il a occupé pendant 27 ans. Et puis après les attentats du World Trade Center à New York, il écrit 11 septembre 2001, il compose une sorte d'oratorio des voix de la catastrophe. En 2016, il crée sa dernière pièce, Boulevard Bettencourt, ou une histoire de France au TNP de Villeurbanne, sur la vie de Liliane Bettencourt, un texte choral où l'on retrouve ses thèmes favoris, l'entreprise, la politique, la Shoah. Il nous avait fait pénétrer dans les coulisses du pouvoir, on croisait des courtisans, des politiques. Michel Vinavert avait écrit une grande pièce onirique, comme il en avait le secret, sur le mode des tragédies grecques.
La carrière de Michel Vinavert, retracée par Stéphane Capron. Et voilà un sujet d'étude auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Quelle est l'espérance de vie d'un chien? Des chercheurs britanniques se sont penchés sur cette question, c'est très sérieux. Étude d'une ampleur inédite, près de 870 000 animaux anglais, écossais, irlandais ont été étudiés avec des données cliniques datant de 2016. Résultat, l'espérance de vie de votre chien dépend bien sûr de sa race, de sa taille, mais aussi de son pays d'origine, Bradley de Souza.
12 ans en moyenne pour le Jack Russell, moins de 5 ans pour le Bulldog français.
On sait que les races de plus petite taille ont tendance à vivre plus longtemps que les races de grande taille.
Jean-Christophe Vullière, mais vétérinaire dans la région lyonnaise.
Il y a aussi un autre facteur qui est ce qu'on appelle l'hypertype, donc des races qui ont été sélectionnées avec des critères parfois un peu excessifs, comme les nez très courts des Bulldogs que vous citiez, ont tendance à accroître le risque de maladie et donc réduire l'espérance de vie.
Une espérance de vie qui peut changer d'un pays à un autre et pour une même race. Un labrador, par exemple, vit en moyenne 11 ans au Royaume-Uni, 14 ans au Japon.
Il y a des souches de labradors qui sont différentes d'un pays à l'autre et c'est lié à d'autres critères, comme notamment l'exercice. On sait que le labrador est très prédisposé à l'obésité et qu'il nécessite un exercice régulier pour maintenir son poids et donc se maintenir en forme.
Et pour réaliser cette étude, un peu plus de 30 000 chiens ont été passés au crible. Pour Jean-Christophe Vullierme, avant d'en acquérir un, il faut quand même savoir combien de temps il est amené à vivre.
Il y a vraiment des risques qui sont liés à la race, puisqu'effectivement l'espérance de vie peut varier quasiment du simple au double d'une race à une autre.
Mais quelle que soit la race, ce que l'on apprend, c'est que les femelles vivent un peu plus longtemps que les mâles.
Voilà, attention à l'obésité pour les labradors. Étude publiée dans la revue Scientific Reports.
Tu seras mon père, le nouveau roman de Metin Arditi. Renato, 7 ans, est ravagé par la mort de son géniteur, enlevé par les Brigades Rouges. 10 ans plus tard, il éprouve une fascination à l'égard du professeur Mantegazza, voyant en lui un père de substitution. Renato est un garçon merveilleux, la séduction est réciproque. Mais dans une vie antérieure et sous une autre identité, Mantegazza fait partie des bourreaux. Tu seras mon père, un roman bouleversant de Metin Arditi aux éditions Grasset.
Le temps de ce lundi.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un après-midi plutôt ensoleillé.
Oui, les éclaircies sont belles et vont le rester au nord de la Seine jusqu'en Alsace et du centre Val-de-Loire au Jura jusqu'en Provence et en Corse. Prévoyez quand même quelques petits développements d'averses sur le relief, notamment sur les Alpes du Sud et la montagne Corse. Sur le reste du pays, les nuages sont plus nombreux. Le ciel est surtout bien voilé. Le soleil fait quand même de belles apparitions entre la Seine-Maritime et l'Île-de-France jusqu'au bassin aquitain et à l'Occitanie. Quelques gouttes peuvent encore s'échapper en Bretagne et en Loire-Atlantique en début d'après-midi. Des averses localisées risquent aussi de bourgeonner cet après-midi, en particulier vers les Landes et du Limousin aux hauteurs du Languedoc. Et puis l'instabilité sera plus marquée sur les Pyrénées. Les averses seront plus fréquentes. Les températures, elles, restent plutôt voisines des normales de saison, avec peut-être un petit peu plus de douceur sur le quart sud-est. Prévoyez 16 degrés à Biarritz et à Rouen, 17 degrés à Lille et Quimper, 18 degrés pour Nantes, Orléans et Aurillac. On ira jusqu'à 19 degrés à Paris, Nancy et La Rochelle, 20 degrés à Strasbourg, Dijon, Toulouse, Nice ou encore Ajaccio, et 21 degrés à Lyon et 23 degrés à Marseille et à Montpellier.
Sébastien Léas, Météo France, merci à vous.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Si vous avez fait un tour en bord de mer ces dernières semaines, vous avez forcément remarqué ces affichettes devant la plupart des bars et des restaurants. Recherche serveurs, cuisiniers, barman, crêpiers, etc. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui emploie plus d'un million de salariés dans notre pays manque de bras et peine à recruter malgré une hausse récente des salaires. Conséquence de la crise Covid, déplorent les professionnels, mais pas seulement. Alors si vous avez quitté le secteur ces derniers mois, venez nous expliquer pourquoi. Si vous tenez un bar, un restaurant, un hôtel et que vous avez trouvé des solutions, là encore, appelez-nous. Bien, si vous cherchez des solutions, vous le faites également 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous interpeller via l'application France Inter pour vous répondre dans ce 13-14. Jean Terlon, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Avant d'accueillir un premier auditeur, Jean Terlon, combien d'offres d'emploi non pourvues en ce moment dans l'hôtellerie et la restauration?
Bah, on est entre 200 et 300 000.
200 et 300 000, c'est du jamais vu.
Oui, bien sûr, c'est du jamais vu. Surtout que là, on le perçoit tout de suite avec les saisonniers qui sont très pressés et qui sont normalement, qui ont une quantité de CV impressionnante. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'offre. L'offre, elle est là, comme toujours, et il n'y a pas de candidat. Alors justement, faut en profiter. Comme il y a beaucoup d'offres, il faut que les gens qui veulent venir dans nos métiers, qui c'est un métier passionnant, qui a beaucoup d'avantages, plutôt que de passer des inconvénients, il y a le choix. Donc profitez-en. C'est vous qui avez les cartes en main, salariés. Choisissez le bon établissement, le bon endroit, la meilleure ambiance.
Alors pour l'instant, les salariés semblent voir plutôt les inconvénients que les avantages. Oui. Jean Terlon, parlons des salaires qui ont augmenté.
Oui, 16,5%
d'augmentation. Combien gagne aujourd'hui un serveur?
Alors on va dire en net, hein, on est aux alentours, dans les 1500 à 2000 euros, voire
ça
plus.
Ça fait une bonne fourchette, 1500-2000
euros. Oui, bah, parce que vous savez, il n'y a pas une solution, il y a 200 000 restaurants en France, tout type confondu, il y a 200 000 offres d'emploi différentes à peu près. Mais évidemment aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, profitez-en parce que c'est le moment de la surenchère quelque part, au détriment... effectivement des fois de la rentabilité du restaurant, mais je veux dire, c'est un métier où on a besoin de bras, de gens motivés et qu'on peut former rapidement s'il y a besoin.
Est-ce que vous payez aujourd'hui le fait que la grille salariale soit longtemps restée très basse, trop basse, et donc il y a une mauvaise réputation de la rémunération dans l'hôtellerie et la restauration?
Moi je suis d'une génération où on a connu le service qui était au pourcentage. Et c'était du personnel en salle qui gagnait extrêmement bien leur vie. Et donc, ça a été supprimé par une erreur à l'époque européenne et gouvernementale de taxer le service. Alors qu'on a bien vu que pendant le confinement, les Français n'hésitaient pas à payer 30% de livraison, alors qu'il faudrait retrouver un moyen de rémunération, surtout en salle, qui a un petit peu plus de contraintes que la cuisine et qu'on peut penser est un peu moins passionnant. Donc il y a toujours une différence entre la salle et la cuisine au niveau salaire. Mais c'était le pourcentage, ce qui existe toujours chez les anglo-saxons et qui marche très très bien, permet de compenser... Les quelques désagréments de ce métier qui malheureusement sur les fondamentaux ne peut pas changer.
Donc la salle entre 1500 et 2000 euros, me disiez-vous à l'instant pour un serveur ou une serveuse, la cuisine?
Pareil.
C'est-à-dire entre 1500 et 2000 euros aussi pour un cuisinier.
Oui, on a même vu, on peut aller jusqu'à, ça dépend, je vous dis, entre un cuisinier dans une brasserie qui fait 500 couverts et puis un petit restaurateur qui a besoin d'un commis pour faire 30-40 couverts, c'est pas du tout les mêmes fourchettes. Donc il faut quand même aussi ne pas oublier la rentabilité de l'établissement. Parce que le chef d'entreprise a aussi besoin de gagner sa vie quand même.
Bon, manifestement, ces rémunérations ne sont pas assez attractives aujourd'hui.
Non, c'est pas le problème majeur.
C'est pas le problème majeur,
non.
Selon vous.
Le problème majeur, c'est d'avoir vécu 7 mois chez soi, rémunéré grâce à l'État qui a aidé les professionnels qui nous ont fermés administrativement, et les gens, ça leur a permis de s'apercevoir qu'il y avait une vie à côté de leur vie professionnelle qui était assez prenante, et donc ils ont beaucoup réfléchi et beaucoup changé d'orientation. Souvent, ils sont restés dans le secteur de l'agroalimentaire, par exemple des maîtres d'hôtel ou des sommeliers qui sont devenus cavistes, par exemple. Ils ont fait un choix de vie, et le choix de vie, ça n'a pas de prix. Donc vous pourriez mettre une rémunération même encore supérieure, je crois que c'est pas le problème.
Alors le problème n'est pas là, on va voir ce qu'en pense Emmanuel qui nous appelle de Limoges. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Je crois que vous avez une expérience vous-même dans la restauration.
Oui, avec 20 ans. Moi je me suis reconverti bien avant le Covid. Pour des raisons, c'est que il faut que la restauration se réinvente. Moi j'ai été cuisinier, chef cuisinier, j'ai très bien gagné ma vie, je me suis épanoui dans ce métier. Je cuisine toujours beaucoup, mais maintenant à titre personnel. Mais c'est un métier qui doit se réinventer parce que c'est un métier qui est tellement usant, fatigant. Moi, je me suis vu travailler des saisons où on travaillait entre 60, 65 heures semaine. Donc, parce que c'est, et ça vous coûte personnellement. Enfin, votre vie physique, votre vie sentimentale, votre vie... j'ai divorcé 2 fois, parce que c'est des métiers qui vous bouffent. Intégralement.
Quand vous dites se réinventer, Emmanuel, vous pensez à quoi, par exemple?
Ben, c'est parce que c'est, enfin, moi, actuellement, j'ai une petite entreprise, j'ai 2 salariés, ma vie est beaucoup plus cool. Alors que j'ai quand même beaucoup de responsabilités, mais la restauration, moi, je me suis, un cuisinier, vous savez, la nuit, il rêve de ses recettes. Il s'endort avec sa cuisine. Il rêve de sa cuisine. Il rêve de réinventer des choses. On fait, c'est tellement prenant, c'est un métier tellement prenant, et je parle pas que du salaire, parce que monsieur a raison, moi j'ai très bien gagné ma vie, hein. Je gagnais entre 2007, 2008, en tant que chef de cuisine, c'était pas un problème de salaire, alors ramené à l'heure, on est en dessous du SMIC, hein. Faut pas se leurrer, mais c'est un métier qui peut être passionnant, mais qui est tellement prenant, que c'est très compliqué de motiver des gens.
Merci à vous, Emmanuel, pour ce témoignage. Emmanuel qui nous dit quand même, ramené à l'heure, on est en dessous du SMIC.
Oui. Mais c'est tout le problème de
Jean Terlon. Et qui nous dit aussi, il faut se réinventer. Est-ce qu'il y a, dans les relations, par exemple, entre les patrons et les salariés, des choses à faire? Parce que la génération à laquelle vous avez affaire aujourd'hui, elle est différente, évidemment, de celle qui l'ont précédée.
Ben écoutez, se réinventer, moi je sais depuis 40 ans m'adapter à une situation journalière, puisqu'on ne sait jamais quand on ouvre le restaurant pour des enseignes d'artisanat comme nous on représente à Lumi, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas combien de clients on va faire, donc ça, on s'adapte aux situations, on peut avoir une salle pleine comme une salle à moitié pleine ou d'un seul coup. Se réinventer, je ne sais pas exactement, soit on fait autre chose et on fait de la restauration rapide et ça c'est autre chose, et là ça permet d'avoir effectivement un fonctionnement totalement différent, mais un restaurant... Il y a aussi la part du client, il ne faut pas oublier que le client, bien, il faut aussi qu'il apprenne aussi à rester un temps donné, mais pas éternellement dans nos restaurants, parce que c'est eux, à un moment donné, c'est quand même le client qui fait aussi nos horaires de départ.
Mais est-ce que vous pouvez donner d'autres perspectives aux salariés, des perspectives de carrière, par exemple? Peut-être qu'il y a aujourd'hui des salariés qui ne veulent plus être de simples exécutants dans une entreprise. Est-ce que la profession, elle s'est adaptée aux attentes de ces salariés, justement?
C'est pas des exécutants, vous savez, une très bonne cuisine servie par quelqu'un de testament désagréable, vous retenez que ça, hein. Donc c'est un ensemble qui est vachement important et c'est le cuisinier qui vous parle. Donc je peux faire la meilleure cuisine et puis être servi par un gougnafier, comme on dit, ou quelqu'un d'absolument pas aimable. Il faut des qualités personnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Chacun essaie de trouver la meilleure solution par rapport pas oublier la rentabilité de son établissement, parce que c'est bien de fermer un jour de plus, un service de moins, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, nous avons quand même un problématique économique à régler quand même. On a des prêts garantis par l'État à rembourser, par exemple. Donc, il faut quand même qu'économiquement, l'établissement soit viable. Donc, on peut faire plein de choses. Il faut trouver effectivement des solutions très innovantes qui ne sont pas habituelles dans nos métiers. Mais on a un service le midi, un service le soir. Donc déjà, à la coupure, c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un en coupure. Ça fait deux travaux par jour.
Deux services, ça veut dire qu'entre les services, on va rentrer chez soi. Donc ça fait
si
des
on n'est pas loin, c'est bien. Si on est loin, c'est embêtant.
Voilà, ça pose aussi la question du logement.
Oui, pour les saisonniers, par exemple.
Pour
oui.
les saisonniers, est-ce qu'il y a des choses à inventer ou qui sont en train de se faire assez... Que c'est une question finalement que vous n'avez pas vu venir.
Si c'est pas, vous savez, le Covid n'a fait que accélérer énormément les choses. Mais avant, c'était déjà un problème de recrutement. Je vous dis le principe de la coupure. Bien sûr que ma génération, on a travaillé sans trop regarder ce qu'on faisait, ni les heures, ni ainsi de suite. Aujourd'hui, on est société de loisirs et que les gens ont envie de profiter de leur vie. Donc, évidemment, ce métier, on est du côté de la fête. Mais pas du côté de ceux qui font la fête. Mais on participe à la fête. Donc c'est un métier qu'il faut vraiment être passionné pour le faire, pour trouver que les heures que l'on fait, qui sont dues à plein de paramètres, qu'on peut pas régler comme ça en deux coups de cuillère à peau, fait que ce métier reste quand même attractif. Il y a tellement de possibilités dans ce métier, tellement de secteurs d'activité dans la restauration, que celui qui trouve pas chaussure à son pied, c'est qu'il cherche pas beaucoup. Hein.
Je vous livre quelques témoignages. Alors Emmanuel nous a dit sa passion, hein, lui qui a travaillé pendant une vingtaine d'années dans la restauration. Ouais. Baptiste sur l'application France Inter. J'ai travaillé en restauration pendant 6 ans. J'ai démissionné à la sortie du deuxième confinement. J'ai eu 11 patrons différents. Seulement 2 me payaient mon salaire, dit-il, et mes heures supplémentaires dans les temps. La restauration, ce sont parmi les pires pratiques patronales du monde du travail. Xavier, saisonnier, chef cuisinier, je m'apprête à me reconvertir dans une autre branche. La cause principale, les salaires sont trop bas. On a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, Jean Terlon.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un paramètre qu'on prend jamais en compte dans les discussions, parce que des chefs d'entreprise qui font pas les choses correctement, il y en a évidemment partout dans tous les métiers. Il y a le paramètre du client. Effectivement, quand on va dans un restaurant, c'est un lieu de dans le lieu où on s'installe. Voilà, et on y passe un moment. Sauf qu'il faut aujourd'hui prendre conscience qu'on peut plus y rester comme on y restait. Moi, j'ai connu des repas qui commençaient à midi et qui finaient à 5h de l'après-midi. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Donc, les gens mangent très vite. Donc, tout ça a beaucoup changé. Donc, il faut avoir une culture de, par exemple, de donner la facture à la fin du repas et ainsi de suite. Parce que, des fois, on peut rester trop longtemps. Mais ça, donc, c'est du temps présent. C'est pas du temps travaillé. C'est du temps présent. Mmh. Il faut vraiment, à un moment donné, il va falloir, vraiment très sérieusement que tout le monde se mettre autour de la table et qu'on prenne tous les paramètres pour arriver à trouver une idée qui fasse que... Mais ça reste toujours un métier passionnant, mais prenant comme tous les métiers passionnants.
Question d'Éric qui nous appelle du département du Finistère. Bonjour Éric.
Oui, bonjour. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans les écoles hôtelières, je pense qu'il faut absolument redonner le goût à tous ces futurs serveurs, maîtres d'hôtel et autres. Il faut leur redonner un petit peu l'envie et selon moi, ça s'est un peu perdu. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un métier dur qui l'est effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'engouement, le fait de voir des gens et en plus après toute la période de Covid. Je pense qu'aujourd'hui, il faut leur redonner cette joie de travailler.
Merci à vous, Éric. Je précise que vous travaillez dans la restauration, précisément. Réponse de Jean Terlon sur cet aspect, le travail avec les écoles hôtelières.
Le problème des écoles hôtelières, les professionnels, on aime beaucoup mieux l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage, on apprend dès le début de l'apprentissage le côté difficile de ce métier, c'est-à-dire des horaires un peu décalés, évidemment. Il y a une rupture familiale, hein, forcément, ou avec les copains, ou les amis. Donc, c'est les écoles hôtelières pures, c'est-à-dire on va apprendre le métier à l'école. Évidemment, quand on arrive dans le métier, il y a une douche froide qui arrive parce qu'on n'a pas vécu pendant le cycle de l'apprentissage le rythme d'un restaurant.
Dernière question, Jean Terlon, témoignage de Fabienne, là encore sur l'application France Inter, qui vous interpelle sur la difficulté de ce métier pour les femmes. Ma sœur était passionnée de cuisine, elle a été harcelée, dit-elle, fait une dépression. Aujourd'hui, elle ne peut plus travailler dans ce milieu. Il existe une omerta sur les pressions faites sur les femmes dans ce milieu essentiellement masculin. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet-là
Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Bien sûr que c'est un métier qui a une renommée très masculine, mais aujourd'hui, on voit bien toutes les chefs qu'il y a. Je pense que,
Il n'y a pas plus de difficulté à recruter des femmes que des hommes.
Non, il n'y a pas de difficulté. Je vous dis, si les gens ont la passion, et nous, on sait reconnaître les gens qui sont passionnés, et on a la passion de les former, et on a les passions de leur transmettre ce que l'on aime, notre métier, que ça soit la cuisine ou la salle, que ce soit un homme ou une femme, ça nous pose aucun problème.
Merci à vous, Jean Terlon, d'avoir accepté l'invitation du 13-14 de France Inter, vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
France Inter, le 13-14.
Jusqu'à 14h avec nous, Jean Lebrun. Bonjour Jean.
Bonjour Jérôme.
Une histoire bretonne aujourd'hui, le joint français.
Bah, national aussi. Oui. Il s'agit d'une marque nationale, le joint français, et d'une grande grève qui était à son zénith le 1er mai, il y a 50 ans.
Un 13-14 très musical, puisque le feuilleton de ce 13-14 nous emmène à la découverte du directeur du Conservatoire de Marseille, qui est aussi un jazzman de talent. Et tout de suite, c'est une chanson. La chronique de Frédéric Pommier, consacrée au chanteur et comédien Serge Reggiani, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, une rediffusion au micro de Frédéric, l'interview de l'écrivain Olivier Adam, qui vient de publier « Des pouvoirs pas super », roman qui signe son retour à la littérature jeunesse.
C'est une chanson de 1967 qu'a choisi de nous faire écouter Olivier Adam, « Le petit garçon » de Serge Reggiani. Un titre qu'il a découvert quand lui-même était petit garçon. La musique est de Jacques Datin et les paroles sont signées Jean-Loup Dabadi, qui disait avoir écrit ce texte comme un scénario. Scénario qui s'est imprimé durablement dans la mémoire, dans le cœur et l'imaginaire du tout jeune Olivier Adam.
Les chansons que j'aimais, c'était la grande chanson française, c'était Ferrat chante Aragon, c'était Brassens, c'était Trenet, c'était Barbara, c'était Brel. Et parmi ces disques-là, que j'écoutais dans le salon avec mes parents, mais je montais dans ma chambre aussi pour les passer sur mon manche-disque orange, et j'aimais surtout les chansons les plus tristes. Et je crois que c'est comme ça que j'ai pris le goût des mots et des histoires. J'aimais qu'on me raconte des histoires en chansons, et parmi toutes ces chansons, il y en avait une qui vraiment me mettait le cœur en vrac. C'était vraiment Le petit garçon de Reggiani et cette mélodie magnifique. Mais bizarrement, moi je m'identifiais au père, alors que j'avais 8 ans. Quoi.
Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu, je n'ai pas de chagrin. On est là tous les deux, seuls.
Et je m'identifiais à ce père tout seul dans la maison. J'imaginais un salon sombre, un feu qui crépite, une atmosphère humide. Et ce père désemparé, triste comme les pierres, dont la femme est partie. Alors moi, je faisais tout un cinéma. Elle était partie avec son amant, elle était partie vivre une autre vie, elle était peut-être même morte. Et sa tristesse, et en même temps la manière dont il essaye de tenir bon, ça m'aidait dans des états pas possibles, je faisais des films. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, dans tous les livres que j'ai écrits, l'absence, la disparition, comment vivre ce qui reste, et singulièrement la présence des enfants là-dedans, c'est devenu un motif récurrent. Et je me demande toujours si c'est pas cette chanson la source. Une émotion d'enfant tellement forte qu'elle a inscrit quelque chose dans mon paysage mental. Quoi.
Il y a assez peu de textes dans la chanson qui abordent la paternité.
C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que on voit dans cette chanson une manière de casser les codes, quoi. De mettre en scène une paternité très bienveillante, très tendre, et en même temps un peu désemparée en l'absence des femmes.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour, comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls.
Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends.
Le petit garçon par Serge Reggiani avec l'interview d'Olivier Adam, dont le dernier roman Des pouvoirs pas super vient de paraître chez Flammarion Jeunesse. Une semaine dans leur vie, le feuilleton du 13-14 est musical cette semaine et nous emmène au conservatoire de Marseille. Nous allons le visiter avec Raphaël Humbert, saxophoniste et compositeur de jazz. Il en est le directeur depuis bientôt 3 ans, après y avoir étudié, enseigné et créé sa compagnie de jazz. Début de la visite avec Sarah Guibaudot dans son bureau, qui est déjà une salle de musique.
Bonjour. Enchanté.
Enchanté.
Ça va bien ?
Mais très bien, ouais.
Le Bricourt, c'est un des plus beaux bureaux de Marseille. J'ai une vue quasiment pas à 360 degrés, mais presque. On voit d'un côté le 17e, le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde. C'est assez emblématique. C'était la salle de cours de Pierre Barbizet.
On peut dire 2 mots sur qui était Pierre Barbizet ?
Pierre Barbizet, c'est un des plus grands pianistes classiques du XXe siècle français. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le premier concert classique que j'ai vu quand j'étais enfant. C'était Pierre Barbizet avec Ivry Gitlis à Aix-en-Provence. Ça a été un grand moment de bonheur. C'était des gens qui avaient une conception de la musique très sérieuse, très disciplinée, mais extrêmement ludique. Voilà, c'est ne pas se prendre au sérieux, mais prendre les choses au sérieux. Voilà, c'est ça, c'est la devise que je pense qu'on peut retenir de ces grands musiciens et de ces grands artistes. Fantômes et les esprits de Barbizet sont là. Donc là, on a un grand gaveau, début 20e siècle, très grand, c'est vraiment une rareté. Les spécialistes du piano sont toujours étonnés de le voir. Et puis derrière moi, c'est son Steinway, un plus petit, mais qui est vraiment un instrument assez merveilleux. Alors moi, je ne suis pas du tout pianiste, mais comme je compose et j'adore jouer du piano, je m'en sers assez souvent. Et c'est d'ailleurs ici, vous voyez, une très grande hauteur de plafond. On a même enregistré mon dernier disque, on l'a enregistré dans cette pièce avec mon pianiste qui a joué sur le piano de Barbizet. C'est un peu le paradis, hein.
Est-ce que vous pouvez me raconter, vous, votre entrée au Conservatoire de Marseille, quand vous étiez ado ?
Mon Dieu ! Jamais j'aurais imaginé me retrouver dans cette place et dans cette situation.
Moi, surtout que vous n'avez pas un parcours classique. Vous n'avez pas commencé à apprendre la musique au conservatoire.
Ah non, pas du tout. Moi, je suis complètement autodidacte sur l'instrument. C'est-à-dire que j'ai jamais pris de cours de saxophone. J'ai appris tout seul, suite à une rencontre avec un voisin qui s'était installé. Moi, j'ai grandi dans le nord du département, au-dessus d'Aix-en-Provence. J'ai grandi à la campagne et un voisin s'est installé un jour. J'avais 15 ans, un voisin de 15 ans aussi, qui jouait du saxophone. J'ai découvert ce nouveau voisin par le son, parce que j'entendais un son au loin. Je me suis rapproché. J'étais fasciné, parce que l'instrument est fascinant autant par le son que par ce qu'on voit, hein, on dirait presque de l'or qu'on voit pour la première fois. Et j'ai tout de suite demandé à essayer, et c'est comme si j'en avais fait tout le temps, en fait. J'ai appris tout seul, en écoutant des disques, en regardant. Alors à l'époque, il n'y avait pas YouTube et tout ça, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Et je me suis présenté à un petit peu moins de 18 ans à la classe de jazz du conservatoire du conservatoire Pierre Barbizet. Classe de jazz qui est la première classe de France, enfin, elle a une histoire assez forte, et ils m'ont accepté.
Venez passer une audition, vous jouez quoi ?
Je me rappelle très bien, j'ai joué tout seul un morceau de Charles Mingus qui s'appelle Réincarnation, le Fluff Bird, qui est un très beau morceau, assez difficile. Je m'étais donné un petit challenge avec ça. Puis j'avais joué un blues avec les musiciens qui étaient présents. L'idée aussi, c'était de voir ce que je pouvais faire avec les autres. Et sans trop de notions théoriques à l'époque, j'avais réussi à intégrer la classe de jazz. Et ça a été pour moi une révélation, parce que c'est ici que j'ai rencontré beaucoup de musiciens avec qui je continue de jouer, en fait, toujours maintenant. Et puis ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire d'intégrer une classe, d'avoir une formation formation aussi, même si quand j'ai passé mon diplôme final, ils ont juste oublié de me demander si j'avais tous mes UV en solfège, que je n'avais pas. Mais cette présence au conservatoire, ça a été pour moi, il y a un avant et un après. C'est ce que vraiment je l'analyse comme l'événement qui m'a permis de devenir musicien.
Raphaël Humbert, directeur du Conservatoire de Marseille, dans le feuilleton du 13-14 toute cette semaine avec Sarah Guibaudot. Demain, nous nous intéresserons au recrutement des élèves.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, juste avant 14h, avec Jean Lebrun. Le juin français, l'histoire d'un mouvement social qui a marqué la Bretagne, et pas seulement. 1er mai 1972, il y a 50 ans donc. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais la classe ouvrière française est à son sommet.
Et on est au plus haut d'un cycle économique qui va se retourner dans les années qui suivent. Mais après 68, les travailleurs ont obtenu des augmentations, la reconnaissance de la section syndicale. Et c'est sous le mandat du président Pompidou, 69-74, que s'effectue enfin la mensualisation de leur salaire. Et jamais non plus les ouvriers n'ont été aussi nombreux, Jérôme. L'industrie est allée chercher de la main-d'œuvre, non seulement dans l'immigration, mais chez les femmes et les provinciaux, par une politique volontariste de décentralisation des usines.
Et dans ces défilés du 1er mai 72 est évoqué sans cesse le combat des ouvriers, surtout des ouvrières, de l'usine du Joint français à Saint-Brieuc, combat proche de la victoire à cette date, et qui fait l'objet à Saint-Brieuc en cette année 2022 de toute une semaine de réflexion, exposition et projection.
Alors le Joint français s'était installé à bas prix, 10 ans plus tôt, 62, à Saint-Brieuc. C'était une des 115 filiales de la CGE, 6e groupe français. Son usine de production de joints divers, en caoutchouc et autres, à Beson, s'était avérée trop étroite et elle avait tiré parti des incitations financières de l'État et surtout du don quasi gratuit par la municipalité de 14 hectares à l'extrémité de l'agglomération. À l'époque, quand on présentait les succès des implantations en région, on insistait guère sur une de ces explications, le faible coût de la main-d'œuvre provinciale, encore rurale, largement féminine, et qu'on pouvait renouveler comme on voulait par un fort turnover. Des salaires de 20 à 40% moins élevés qu'en région parisienne. « On est les petits bretons », disaient les ouvriers du Joint français, et d'abord les ouvrières, mais tout de même, mars 72, la grève est votée, puis l'occupation.
Et le conflit va durer 8 semaines et beaucoup occuper l'attention de l'opinion.
Alors, lorsque le préfet fait évacuer l'usine, le grand quotidien Ouest-France publie en une la photo d'un ouvrier qui empoigne un CRS. Tous deux sont des copains d'enfance, même école, même village. On reproduira beaucoup ce cliché dans La Cause du Peuple, le journal maoïste, et ailleurs, avec cette légende, vivre et travailler au pays. Le siège parisien ne veut rien concéder. Le 5 avril, le directeur de Saint-Brieuc, qui ne dispose en réalité d'aucune autonomie, se retrouve retenu dans un climat assez hostile. J'ai envie de lui casser la tête. Et si on prenait un couteau? Les propos que rapporte le journal maoïste, La Cause du Peuple donc, rappellent le vocabulaire de la chasse et des abattoirs qui sont familiers aux ouvriers bretons. Alors, l'opinion aujourd'hui en serait peut-être émue, mais à l'époque, le soutien aux grévistes du Joint français est à peu près unanime. La municipalité de Saint-Brieuc, très investie, est tenue par le PSU, c'est un petit parti de la gauche autogestionnaire, très faible dans le reste du pays, mais très fort dans les Côtes-du-Nord et le Trégor. Le leader CFDT, Jean Le Faucheur, parle comme il l'entend depuis le balcon de l'hôtel de ville. Les caisses de soutien se remplissent du produit des quêtes dans les églises. Les agriculteurs apportent leur production. Ça serait inouï aujourd'hui. Les étudiants de Rennes et les lycéens de Saint-Brieuc manifestent. Les grévistes vont obtenir l'augmentation de salaire demandée, mais l'opinion aura aussi entendu l'autre revendication, la demande d'un travail qui ait un sens. Autrement dit, un travail où l'OS lui-même, bien qu'au plus bas de l'échelle des classifications, puisse achever ses gestes et pas seulement les répéter. Bref, un travail, dit un des ouvriers du Joint français, et pas seulement une production.
Et la mémoire du Joint français demeure ?
Ben oui, mais les investisseurs en tout cas n'ont pas la mémoire courte. Le nom de Joint français a été longtemps pour eux un repoussoir et le développement industriel de Saint-Brieuc ne s'en est pas trouvé facilité. Dans l'opinion,
Au niveau national, la marque Join français a été éclipsée dès l'année suivante par le conflit de Lippe à Besançon, qui présentait à peu près, mais en plus grand, des caractéristiques proches. C'est au niveau régional que le souvenir demeure fondateur. 70, un livre de Morvan Lebesque avait recueilli un grand succès. « Comment peut-on être breton » demandait-il. En plein milieu du conflit, les indépendantistes du Front de libération de la Bretagne ont fait sauter la villa qu'avait fait construire Francis Bouygues à Saint-Coulon et qui pour lui était le prélude à des achats spéculatifs sur la côte d'Émeraude. Exploitation de l'homme, exploitation de la nature. Un an plus tard, la Moco Cadiz déversait sa cargaison de mazout et le gouvernement lançait son projet de centrale nucléaire à Plogoff. La réponse des Bretons, on le sait, ne fut pas celle du FLB, elle fut autrement mieux portée par les artistes qui avaient été très nombreux à entrer dans la bataille du Join français, Stivel qu'on reçoit de nouveau dans les scènes parisiennes, était déjà à son poste. Et puis Gilles Servat, c'est l'époque, vous vous souvenez, Jérôme, de La Blanche Hermine.
La voilà, vive, La Blanche Hermine.
La Bruyère et la Jonc, c'est folie d'être enchaîné plus longtemps.
À Saint-Brieuc, cette semaine, Jean, autour de ce conflit du Join français, un colloque au campus Mazier, du nom du premier maire PSU, vous en parliez, de cette ville de Saint-Brieuc, soirée de projection de films, une exposition au musée de la ville également. Merci à vous, Jean. À demain.